Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Marie Leroy, bonjour.
Bonjour.
Vous allez nous parler du livre de Justine Picardie, dont le titre est Coco Chanel, ça paraît chez Flammarion.
Alors, d'abord, je voudrais juste dire que je suis seulement directrice littéraire aux éditions Flammarion, mais j'avais déjà édité un ouvrage qui a trouvé beaucoup de succès, qui s'appelait Miss Dior, qui a été écrit par Justine Picardie. Et ce livre racontait l'histoire de la sœur de Christian Dior, qui à l'époque n'était absolument pas connue, pendant la guerre, et qui va entrer en résistance. À travers l'histoire de Miss Dior, Justine Picardie pouvait raconter la mode pendant la guerre avec ses loyautés, ses compromissions. Et en fait, elle avait fait un livre vraiment passionnant parce qu'elle enquêtait. Elle est elle-même une ancienne rédactrice en chef du Harper's Bazaar à Londres. Et donc, ce qui m'intéressait aussi, c'était sa capacité à enquêter. C'est une journaliste. Et donc là, elle était partie sur les traces de Catherine Dior. Et à travers ce portrait, elle nous racontait ce monde de la mode pendant la guerre, la naissance de Christian Dior, couturier. C'était vraiment passionnant, ça a beaucoup plu. Et après, elle m'a dit, mais voilà, j'ai écrit une Chanel en anglais, je voudrais la voir traduite en français. Et j'ai des archives nouvelles. Alors, autant vous dire que lorsqu'on est éditeur, ça fait quand même beaucoup d'éléments qui vous donnent envie de traduire, de continuer. L'expérience que j'avais avec Justine Picardie.
Alors donc, c'était écrit en anglais britannique. Et vous avez trouvé l'éditeur ou c'est elle? Comment ça s'est passé finalement, le démarrage de ce livre, Coco Chanel?
C'est assez simple. J'ai continué à travailler avec son agent qui est aux États-Unis et on a décidé donc de traduire ce livre, le Chanel, en français. Elle était une amie de Karl Lagerfeld qui lui avait donné, lorsqu'il était encore vivant, qui lui avait donné la possibilité d'avoir accès aux archives, de circuler dans la maison de Chanel, dans la maison de couture, mais aussi dans ses appartements. Et elle aime travailler comme ça, c'est-à-dire qu'elle rentre dans les lieux de son personnage. Elle essaie de le, c'est d'ailleurs le premier chapitre, elle essaie de la cerner, de la ressentir, d'éprouver un peu ce personnage. Et Chanel, c'est quand même quelqu'un dont j'ai envie de dire que l'image qui nous est restée est une image d'une femme assez âgée, assez aigrie, qui est toujours en train de parler des vues qu'elle ne veut pas au-delà du genou. Ils doivent cacher le genou. Donc, moi, j'avais vraiment envie de renouer avec tout le personnage Chanel dans son entièreté. Et il est donc question de la vie de Chanel plus que de la couturière. Mm-hmm. Et on peut penser que c'est la même personne, mais en réalité, on comprend assez vite dans le livre que ce n'est pas la même personne.
Donc, une vie, une légende. Alors, ce qui est absolument passionnant dans ce livre, c'est qu'on voit se tisser petit à petit ce personnage, ce mythe de Coco Chanel, qui ne s'appelait d'ailleurs pas Coco, elle s'appelait Gabrielle Chasnel, mais le S a sauté, et c'est Gabrielle Chanel, et c'est devenu Coco Chanel, parce que à un moment donné, elle a eu envie de pousser la chansonnette quand elle a commencé à remuer les personnages du showbiz à Paris, et elle a commencé à chanter, elle a chanté la petite chanson que qui a vu Coco dans le Trocadéro. Automatiquement, quand elle apparaissait sur scène, les gens l'appelaient Coco, et c'est comme ça qu'elle a gagné ce nom.
Exactement. En fait, le livre commence sur Chanel, petite fille, dans un orphelinat. Et quand on est sans ressources, sans argent, sans famille, à cette époque-là, la possibilité pour une femme d'agir dans la société est assez limitée. Et en l'occurrence, Chanel, c'est une petite fille, c'est une jeune fille qui rêve beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'imagination. Et la vie qui pourrait lui être proposée, c'est-à-dire celle de trouver un mari qui forcément serait quelqu'un ouvrier ou du moins ou paysan, ne lui plaît pas du tout. Et elle va finalement s'approcher par des amitiés dans des ateliers de couture où on la fait travailler, où on lui fait apprendre ce métier. Elle va rencontrer des jeunes femmes et elles vont commencer à fréquenter des cafés, des sonnets. Et c'est comme ça qu'elle va découvrir une autre vie, une vie plus nocturne. Et c'est aussi comme ça qu'elle va se rapprocher des cocottes, hein, comme on les appelle à tort, qui sont des femmes un peu galantes, et s'en rapprocher.
Alors, l'enfance de Coco Chanel est un peu mystérieuse. Il y a plusieurs thèses, plusieurs versions. Edmond de Charleroux en a donné une que tous les biographes ont prise. Ils se sont accaparés de cette version, selon laquelle elle n'était pas dans un orphelinat, mais qu'elle était dans une abbatiale, c'est ça ?
En réalité, l'histoire de son enfance, elle est assez connue maintenant. C'est les interprétations qu'elle va en faire, elle. L'histoire de son enfance, c'est une petite fille qui va être adoptée, enfin, qui va être mise, inscrite à l'orphelinat, déposée par son père. Sa mère est morte, et elle y arrive, elle est très très jeune, avec sa sœur aînée. Et elle va y passer le temps de l'enfance et de l'adolescence. C'est un orphelinat qui est tenu par des sœurs. Et ce qu'on dit, et ça paraît tellement évident, c'est que à la fois le logo des fées entremêlées ressemble énormément aux vitraux, de cette église, et aussi cette fameuse petite robe noire austère avec le col blanc ressemble aussi aux robes qu'elle devait porter dans cet orphelinat. Après, l'histoire de Chanel, elle est encore pleine de mystère, parce que Chanel n'a pas cessé de se réinventer. Et elle ne cesse de se réinventer, parce que cette enfance malheureuse, pauvre, dans un orphelinat, c'est pas quelque chose qui peut lui être utile dans les milieux qu'elle va fréquenter, des milieux ultra riches, où elle rencontrera d'ailleurs ses amants. Et c'est donc, elle se réinvente, elle va se réinventer toute sa vie, se réinventer son histoire, elle va créer sa légende. Et comme elle raconte jamais la même histoire aux journalistes qui l'interviewent, c'est très compliqué pour les historiens aujourd'hui de la refaire. Alors c'est pour ça que Justine Picardy est allée sur les lieux de cet orphelinat, comme elle ira un peu partout où est allée Chanel.
Alors, c'est un jour important qui éclaire la vie et les relations amoureuses de Chanel, parce qu'elle a des liens très forts avec des artistes comme Jean Cocteau, Serge Diaghilev, Pablo Picasso, Salvador Dali, et elle a des légions d'hommes qui la convoitent, parce qu'elle est créative, elle a du style, pas forcément jolie, mais mince, maigre. Elle porte le vêtement tout à fait comme si on mettait un vêtement sur un cintre, ça tombe de façon magnifique, les lignes ne sont pas cassées, et c'est cette silhouette longiligne, mince, qui fait que les femmes ont envie, elles aussi, d'être à l'aise dans des vêtements fluides, sans taille marquée, qui empruntent beaucoup au monde du sport et aussi au costume masculin.
Alors, en fait, Chanel, comme je disais, fréquente beaucoup les cocottes. Alors, les cocottes, à l'époque, elles sont assez rondes, ce qui n'est pas du tout son physique. Elles sont outrageusement maquillées, coiffées de façon assez spectaculaire, avec de grandes robes. Et Chanel, c'est pas du tout... sa façon de se voir, de s'imaginer habillée. Et par ailleurs, elle fréquente assez vite un certain Étienne Balzan, elle fréquente assez vite celui qui va devenir pas très longtemps, mais de façon très forte dans sa vie, Boy Capel, son amoureux.
Arthur Capel.
Et plus tard, surtout, le duc de Westminster, avec qui elle va rester très longtemps et qui est l'homme le plus riche d'Europe. Et auprès d'eux, elle va littéralement dévaliser le vestiaire masculin. C'est-à-dire qu'elle va, elle adore les matières des chandails, elle adore les tweeds, les vestes. Et c'est ça qui va l'inspirer en réalité, pour en dehors des vêtements. Et ce tailleur que vous connaissez aujourd'hui, qu'on peut trouver aujourd'hui, il lui est complètement venu de sa fréquentation de l'anglais. Des anglais qui est par ailleurs, qui sont par ailleurs le mode, l'art de vivre anglais est assez à la mode quand elle commence. Mode légère qu'elle va donner, qu'elle va inspirer, c'est une mode qui correspond à une femme qui bouge, qui peut, qui n'est pas entravée par des vêtements, pas entravée, alors surtout pas par le corset. Même si pour elle le corset c'est déjà plus un sujet, hein, c'est vraiment il a été enlevé par Poiret, il a été enlevé, enfin voilà, donc ça n'est plus un sujet pour elle. Mais elle, c'est vraiment une en effet, comme vous le disiez, sportive, on est bien dans ses vêtements. Voilà, c'est vraiment son mot d'ordre.
Oui, alors donc, des vêtements aux lignes épurées pour donner une idée un peu précise, harmonieuse, bien sûr, puisqu'elle a le sens de l'esthétique. Est-ce qu'elle dessinait? Est-ce qu'elle avait l'art du crayon?
Pas du tout. Elle ne dessine pas du tout, comme on le voit aujourd'hui. Elle est avec sa paire de ciseaux. Une Picardie, c'est un chapitre magnifique sur ses ciseaux. Elle en a partout, sur sa table de chevet, comme d'autres pourraient avoir un crayon pour noter leurs idées. Elle est là, ses ciseaux. Et en fait, elle découpe les vêtements sur ses mannequins, cabines. Et c'est comme ça qu'elle crée le vêtement.
Des mannequins, des personnes, pas des mannequins en cire.
Non, des mannequins, oui, des mannequins cabine, c'est-à-dire des filles qui étaient là pour faire les essayages dans sa boutique. Et il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que tout à l'heure vous parlez des artistes qu'elle a fréquentés, ce qui est très neuf dans ce livre, c'est qu'en fait on la voit à la fois muse, ça c'est clair, mais aussi extrêmement généreuse parce qu'elle est riche très vite avec son parfum, avec le sang de Chanel, qui va la rendre au moins millionnaire. Et donc, quand elle va rencontrer des hommes qui sont fortunés, donc quand elle va fréquenter donc ce milieu fortuné, où elle n'est pas du tout accueillie les bras ouverts, parce que ce n'est qu'une couturière et qu'en plus, elle a aucune origine. Donc, aucune origine sociale marquée. Et donc, en fait, elle va s'imposer. C'est pour ça aussi qu'elle s'invente, parce qu'il faut s'imposer dans ce monde où on ne l'attend pas. D'ailleurs, aucun des hommes dont elle va être très amoureuse ne vont vouloir se marier avec elle. Parce qu'en fait, on ne se marie pas avec Coco Chanel. c'est ce qu'on dirait aujourd'hui, une fille de rien, enfin, voilà, même célèbre. C'est très difficile pour nous de comprendre ça aujourd'hui.
Alors, nous allons parler des chapeaux. Les chapeaux, au départ, elle ne savait pas les faire. Elle achetait des chapeaux dans les grands magasins qu'elle customisait. Et elle mettait des rubans, elle ajoutait des petites choses. Donc, elle les arrangeait et apportait très bas sur son front. Et puis, pour assister aux courses de chevaux, parce qu'il y a l'univers des chevaux qui est important pour elle... Elle n'arbore pas des robes de grand couturier, mais ses propres réalisations. Elle a le courage de porter des réalisations qu'elle-même fait, qui est une simple cousette.
Bien sûr, elle a ce culot, et puis surtout, elle est très jolie. C'est vraiment, il y a des photos dans le livre, et on voit que c'est vraiment une très jolie femme. Et donc, évidemment, celle qui porte le mieux ses vêtements, c'est elle. Mais assez vite, ses chapeaux vont en faire sa réputation. Et puis, avec les chapeaux, les robes, les vêtements, quelle imagine.
Alors, Coco Chanel, ses vêtements, ses lignes pures, ses couleurs noires, blanches, grises, beiges, ce monde feutré. Mais c'est un univers brillant où elle excelle, où elle éclate, où tout le monde l'admire. Il y a une réalité quand même très sombre, mystérieuse, qui pose grand problème. C'est sa situation pendant l'occupation.
Alors, pendant l'occupation, alors, Justine Picardie, et j'invite les auditeurs à aller lire ces deux chapitres, Justine Picardie a voulu reprendre dans le détail, par le détail, l'histoire de Chanel pendant la guerre. Et Chanel, c'est à la fois par le duc de Westminster qu'elle a fréquenté, enfin qui était son amant, hein, mm-hmm. Elle est très très proche de Churchill, enfin, c'est très peu connu, c'est probablement, c'est bien montré dans le livre, c'est qu'elle fréquente, elle part chasser avec Churchill, elle est très proche de lui, elle y écrit pendant la guerre, mais il est vrai que pendant la guerre, elle rencontre un Allemand dont elle va tomber amoureuse. Elle vivra avec lui jusqu'en, sauf erreur de ma part, jusqu'en 1956, donc c'est pas une amourette de passage. Et alors, c'est déjà, pour une femme, pendant la guerre, enfin, après-guerre, c'est très compliqué d'avoir eu un amoureux, un amant allemand. Et après, le principal reproche qu'on lui fait, c'est la relation qui a été élaborée avec Pierre Wertheimer, qui sont aujourd'hui, enfin, ses descendants sont aujourd'hui les propriétaires de Chanel. Plutôt que de vous faire une description en noir et blanc, je trouve que c'est intéressant de se plonger dans l'enquête que Justine Picardie a faite sur ces cinq années, qui vont de toute façon amener Chanel à s'installer en Suisse après-guerre, d'abord parce qu'elle avait fermé sa boutique en 1940, qu'elle savait que les Allemands arrivaient, donc c'est quelque chose d'abord d'assurer qu'elle n'a pas collaboré au sens strict du terme, alors qu'il y a d'autres couturiers qui ont continué et qui ont bien vendu pendant ces 4 années. Elle ferme le magasin en 1940 ou 39, et puis finalement elle recommencera, elle fera sa première collection bien des années après-guerre, après la collection de Christian Dior, qui refusait des femmes un peu petites choses, petites créatures, et ça l'avait exaspérée. Et sa première collection d'après-guerre sera à nouveau financée par la famille Wertheimer. Donc, cette relation pendant la guerre, il faut la lire précisément, parce que tous les détails comptent, et je ne suis pas en train du tout de botter en touche, mais je trouve que Justine Picardie a fait vraiment bien les choses. Voilà.
Alors, comment est-ce que c'est arrivé qu'elle ait cédé la propriété de ses parfums avant-guerre à des industriels juifs? C'est un échec. Les frères Wertheimer, réfugiés aux États-Unis, déjouent son plan et ils gardent actuellement. Ce sont les frères Wertheimer aux États-Unis qui possèdent la maison Chanel. Est-ce que c'est exact?
Bien sûr, mais c'est pas fait du tout comme ça. Ça date pas de la guerre. Alors qu'elle est devenue une dame très âgée, comme je vous le disais à l'instant, c'est la famille Wertheimer qui va refinancer sa première collection. Et peu avant sa mort, enfin, elle va aller les voir et leur dire pour passer un accord. Enfin, elle était toujours en relation avec eux. Puisqu'il distribuait ses parfums et qu'il dirigeait et qu'il possédait sa maison. Mais à la fin, elle va aller les voir avant de mourir et leur dire je vous donne ma maison. Elle n'a pas d'enfant. Enfin, je vous donne. Bien sûr, j'ai des accords. Hein. Elle a des neveux, elle a de la famille, etc. Je vous donne mon accord pour que ce soit vous qui conserviez cette maison. C'est pour ça que la relation Wertheimer, elle est caricaturée souvent. Elle est très complexe, en fait. Mm-hmm. On commence dans les années 20, lorsque ce sont eux qui vont diffuser son parfum. Et puis, elle s'arrête pas, puisqu'aujourd'hui, ils sont toujours propriétaires, mais à un moment, elle s'arrête avec Chanel, mm-hmm. quand elle meurt.
Et il y a un projet un peu fou, complètement fou, qu'elle conçoit, celui d'arrêter la guerre, en tentant de négocier en 1943 une paix séparée entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est une opération incroyable baptisée Model Hut, c'est-à-dire chapeau de couture, et qui l'a conduit deux fois à Berlin. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
En fait, là aussi, Justine a fait cette enquête sur ce sujet. C'est parce que... Chanel, encore une fois, est très proche de Churchill. Et à un moment, elle a imaginé que peut-être cette relation pouvait être utile pour arrêter la guerre. Enfin, c'était une idée assez saugrenue, en fait. On ne sait pas comment vraiment l'expliquer. Et puis, évidemment, comme vous le savez, rien de tout ça ne s'est fait.
Et comment se fait-il qu'elle se soit mise en position d'être proche de Winston Churchill?
Parce qu'elle était avec, elle vivait avec un homme qui s'appelait, qui était le duc de Westminster, dont je parlais tout à l'heure, mm-hmm. qui était l'homme le plus riche de l'Europe à l'époque. Et encore une fois, quand elle l'avait rencontré, elle aussi était une femme. Très riche, indépendante, donc elle ne dépendait absolument pas de lui, mais il y avait eu un coup de foudre et ils étaient ensemble. Lui vivait en Angleterre, mais il était souvent à Paris, et donc il se voyait très souvent, et lui était proche de Churchill. Donc c'est comme ça qu'elle a fait la connaissance de Winston Churchill.
Il y a aussi toute cette légende autour de l'hôtel du Ritz, dans lequel elle est décédée le 10 janvier 71, à l'âge de 87 ans. Les murs étaient recouverts de miroirs, de statues, il y a des statues chinoises, il y a une atmosphère sombre mais étincelante de profondeur. Ça rime à quoi? C'est tous ces miroirs qu'elle mettait partout, on ne voyait pas du tout de murs. Il y avait partout des miroirs.
D'abord, elle a un sens aigu de la décoration. C'est une femme élégante, qui aime les beaux objets, qui aime la décoration. Et donc, elle a envie de vivre dans ce lieu-là. Elle continue jusqu'au bout d'aller à la boutique. Et surtout, elle est seule. C'est quelqu'un, à la fin de sa vie, elle est assez âgée et elle est seule et cette solitude lui pèse énormément, en fait. Hein. Mm-hmm. Donc, elle est entourée de personnes qui s'occupent d'elle. Mais elle est seule, d'ailleurs, elle le dit, elle le formule, elle dit que que d'être avec un être cher peut adoucir en fait la vie quand on est âgé. Voilà.
Et ces miroirs, pourquoi ?
Voilà.
Et les miroirs qui recouvraient les murs, elle n'aimait pas, les murs étaient de couleur vert kaki.
Moi, je sais juste que la dernière chambre dans laquelle elle vit à l'hôtel est dans des couleurs plutôt pâles, couleurs pêche, bleues, et que elle aime aussi les murs blancs. Enfin, c'est quelqu'un d'assez voilà. Elle sait ce qu'elle veut et passion. Elle a les tons, les couleurs qu'elle souhaite. Elle est assez dynamique aussi, hein, même à la fin de sa vie. Donc,
oui, oui, la veille de la veille, oui, du donc le 9 janvier, puisqu'elle est morte le 10 janvier 1971, à l'âge de 87 ans, la veille, elle a dit « Demain, je suis au boulot, je reviens au travail demain. » Mais le soir, elle avalait des substances aussi.
Oui, tout à fait. Tout à fait, pour dormir. Il semblerait qu'elle ait commencé à prendre des somnifères. Enfin, c'était un peu plus que des somnifères. Elle a commencé à prendre de quoi s'endormir après la mort d'Arthur Capel.
Justement, à ce propos, la nuit du 22 décembre 1919, lorsqu'elle apprend que Arthur Capel, qu'on appelait Boy, a été tué au volant de son automobile, elle dit « En perdant Capel, je perdais tout ». Et ça, elle l'adorait, il était tout pour elle, il s'occupait d'elle, il l'entourait, lui donnait des conseils, il remplissait le monde pour elle. Elle qui était seule finalement, avec une enfance rêvée en ce sens fantasmée, elle n'avait pas des repères réels. Lui, Arthur Capel, a rempli le monde pour elle à un certain moment. Quand il est mort, on comprend le sentiment de vide abyssal qu'elle a pu avoir.
Bien sûr, bien sûr. Mais il ne faut pas... Alors, comme je sais qu'il y a eu un film, qu'il y a eu des fictions sur le sujet, on a tendance à s'arrêter sur Arthur Capel. Ce qu'on découvre dans le livre, c'est qu'elle a été très amoureuse, mais c'est quand même quelqu'un qui... où l'amour est inséparable de sa vie professionnelle, en tout cas.
Moi, je n'ai pas vu de film, je n'ai rien lu d'autre que ce que Justine Picardie a écrit. Et ces lignes, je les tire de son livre. En perdant Capel, je perdais tout. Et au fil des pages, cette bonté qu'il avait pour elle, ce sentiment qui remplissait sa vie. Il était objectivement vivant autour d'elle.
Ouais.
Alors, pour sa tombe, j'ai lu qu'elle avait dessiné elle-même sa tombe. Elle est enterrée au cimetière du Bois de Vaux, à Lausanne, en Suisse, dans une tombe qu'elle a elle-même dessinée.
Ah oui.
Alors, dans son testament, elle lègue sa fortune, estimée par la presse à 10 millions de dollars de l'époque, à la fondation Koga. Eh bien, Koga, c'est quoi ? C'est Coco Gabriel.
Oui.
Administrée justement par cette Gabrielle Palace Labruni, qui est sa petite nièce.
Voilà. Alors, vous voyez, vous en savez plus que moi.
Non, mais j'ai juste lu le livre, tout simplement.
Oui, dans le livre, elle en parle, mais... Je ne sais pas précisément aujourd'hui qui est vivant encore dans sa filiation.
Ce livre est très bien écrit, c'est une enquête comme vous l'avez dit, et on suit pas à pas cet écrivain qui s'appelle Justine Picardie, qui a écrit, comme vous l'avez dit, un livre magnifique qui a eu beaucoup de succès sur Miss Dior. Là, ce livre aussi est très 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 intéressant, et Coco Chanel est campée, restituée dans sa beauté vestimentaire, dans sa création, dans le miracle qu'elle a érigé de sortir d'une d'une famille improbable et d'arriver à côtoyer des Winston Churchill, les plus grands poètes, les plus grands peintres. J'ai lu aussi quelque part que dans une de ces maisons, je crois. Peut-être que c'est dans sa suite du Ritz, il y avait un endroit pour Pablo Picasso, les gens venaient souvent, elle était entourée de ce qu'il y avait de plus grand.
D'artistes. Et moi je trouve qu'elle est très entourée d'artistes parce que dans le fond elle est très artiste, elle a des inspirations, des idées, elle est dans la création en fait. Et je pense que c'est un fonctionnement qui ressemble beaucoup à celui des artistes qu'elle fréquente.
Quand elle fréquente
pour le spectacle, il faut évidemment qu'elle soit pénétrée complètement du spectacle, sinon ça ne marche pas en fait.
Il y a aussi l'univers des chevaux où elle montait en Amazon sans selle avec des jeux de pour. Pas de robe d'Amazon, elle était accrue, quoi.
Oui, c'est une sportive, en fait. Hein. C'est ça aussi qui est assez peu connu, c'est qu'elle est très sportive. On la voit pêcher le saumon en Angleterre, on la voit chasser, on la voit pêcher, pas pêcher, mais faire monter à cheval. C'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très sportive. Elle nage, évidemment.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Madame Marie Leroy. Vous avez publié ce livre, qui est une traduction de l'anglais britannique, dont le titre est Coco Chanel, une légende, une vie. Eh bien, ça paraît aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci, Madame.
Strasbourg Pilote. Arts et Lettres. Le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah.